Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est midi 10, l'heure de votre magazine du midi sur Fréquence Mistral. Et l'arrivée du mois de mars marque le début de Mars Bleu, le mois consacré à la mobilisation contre le cancer colorectal qui vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l'importance de la prévention et du dépistage de ce cancer. Il s'agit du troisième cancer le plus fréquent et le deuxième le plus meurtrier chaque année en France. Il touche près de 47 600 hommes et femmes et 17 000 personnes en décèdent. On pourrait l'éviter, 50%, c'est-à-dire 10 000 vies sur les 17 500 morts annuelles pourraient être épargnées grâce à une prévention, une alimentation, une activité physique différente. On va reparler de tous ces sujets et on va en parler aujourd'hui avec notre invité, le docteur Jean-Guy Bertolino, gastro-entérologue à l'hôpital de Gap, chef du pôle de médecine et administrateur du Centre de dépistage régional des cancers, le CRDC. Bonjour docteur.
Bonjour et merci de votre invitation pour parler de ce sujet important.
Merci d'être parmi nous. Alors, on le disait, c'est un des cancers les plus courants en France et les plus mortels, fortement mortels, alors qu'il pourrait être soigné dans de nombreux cas s'il était détecté à temps. Peut-on peut-être rappeler la situation en France de ce cancer ?
Bonjour, encore merci donc de votre invitation pour parler de ce sujet quand même très important qui est le sujet de la prévention du cancer colorectal. Alors c'est vrai que actuellement nous gastro-entérologues, la plupart du temps on voit des patients qui arrivent avec des symptômes lorsqu'on découvre un cancer. Alors ces symptômes sont variés, ça peut être du sang dans les selles, des douleurs abdominales, donc une constipation inhabituelle. Et quand on est au stade des symptômes, on découvre souvent avec des coloscopies des lésions qui sont curables parfois, mais à un stade assez avancé et donc avec un traitement plus ou moins lourd, c'est-à-dire souvent nécessitant une chirurgie, plus ou moins une chimiothérapie. Donc on sait aussi que c'est un cancer qui finalement pourrait être, comme vous le disiez, guéri s'il était traité précocement. Or, précocement, ce sont des lésions qui donnent pas de symptômes. Tout simplement parce que le tube digestif, le côlon, est un organe creux, assez large. Voilà. Et quand un polype naît, parce que les cancers sont déterminés au départ par une toute petite lésion précancéreuse.
Et un polype peut-être?
Voilà. Qu'on appelle un polype, c'est une petite, en gros, une prolifération cellulaire, donc qui mesure 2-3 mm et qui grossit petit à petit, donc dans le côlon. Donc cette étape dure à peu près 10 ans.
Ah oui, c'est
donc
long.
Entre le début de la lésion et puis le stade du cancer, en général ça dure 10 ans. Sur ces 10 ans, le cancer est totalement asymptomatique. Le polype est asymptomatique quand il grossit régulièrement. Et donc c'est à ce stade-là qu'il faudrait le découvrir pour le traiter.
D'accord, donc quand on a les symptômes, c'est qu'on est déjà d'un stade bien avancé.
Souvent à un stade avancé.
Et quel type, y a-t-il des profils types des personnes qui auraient des prédispositions à ce cancer ?
Alors déjà, on sait que ce type de lésion, ce type de cancer survient en moyenne, le pic de fréquence est à peu près à 50 ans. À partir de 50 ans, comme beaucoup de cancers. Alors bien sûr, il y en a avant, mais ce sont des cas exceptionnels. Donc en fait, c'est pour ça que le dépistage devrait se faire à partir de 50 ans. Après, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des cancers sporadiques, c'est-à-dire sans facteur de risque particulier, comme par exemple le cancer du poumon, ça peut être le tabac. Sur le cancer, on va parler des facteurs de risque des cancers, mais qui sont finalement communs à tous les cancers. Le cancer du côlon, il n'y a pas de facteur de risque particulier. 80% des cancers, c'est ce qu'on appelle nous, dans notre jargon médical, des cancers sporadiques, c'est-à-dire ça survient comme ça. Faut pas de chance, voilà, exactement, ouais, on a un cancer. Donc dans 80% des cas. Après, c'est vrai qu'il y a 15% de la population qui ont des facteurs de risque personnels. Les facteurs de risque personnels, c'est quoi ? C'est des antécédents familiaux de cancer du côlon. Il faut que ce soit des antécédents familiaux au premier degré pour avoir réellement ce facteur de risque, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur. On ne compte pas les seconds degrés, c'est-à-dire la tante, l'arrière-grand-mère, l'oncle ou le cousin. Donc voilà, ça, c'est des facteurs de risque qui donnent théoriquement un surrisque de cancer du côlon. Et il y a toutes les maladies inflammatoires du tube digestif, maladie de Crohn, maladie, bon, maladie inflammatoire du côlon, qui peuvent donner un facteur de risque personnel à ce cancer. Et là, on sort du dépistage organisé et on fait directement, mais ça les gastro-entérologues qui suivent ces patients le conseillent, des coloscopies régulières à partir de 50 ans.
On reviendra justement voilà, sur le PCR.
Mais la plupart du temps, ce sont des cancers sporadiques qui s'adressent à la population générale sans facteur de risque et c'est à eux que s'adresse ce dépistage.
Donc pas forcément de prédisposition ou c'est très rare, mais y a-t-il des facteurs?
Alors, les facteurs inhérents à tous les cancers, c'est essentiellement les facteurs de surpoids, en gros, malbouffe, l'obésité, alcool, tabac et le manque d'activité physique. Ça, c'est les facteurs, si vous voulez, que l'on retrouve la plupart du temps comme facteurs de risque communs à tous les cancers, mais cancer gynéco, cancer du sein, cancer du foie, cancer du poumon. Donc ça, c'est un socle commun de facteurs de risque pour tous les cancers. C'est pour ça qu'on lit souvent ces campagnes de dépistage pour justement toucher non pas que les sujets de 50 ans, mais aussi les sujets jeunes. Et vous avez vu que ces campagnes de dépistage, dans les actions que l'on fait, sont souvent liées à l'activité sportive, au sport. Enfin, voilà, je veux dire, on lit ça justement pour sensibiliser les jeunes, les très jeunes, pour adopter des règles hygiéno-diététiques plus importantes, quoi.
Oui, ce sont des recommandations qu'on a l'impression d'entendre de tous côtés, de toute façon.
Alors, c'est vrai qu'il y a, depuis de nombreuses années, manger 5 fruits et légumes par jour, faire de l'activité physique, c'était comme ça, ben voilà, c'était un petit peu, on savait que ça améliorait les choses, mais là, on a de vraies études actuellement médicales qui montrent que quand on adopte ces mesures-là, dès l'enfance et l'adolescence, on peut diminuer de 40% facteur de risque de cancer, tout cancer confondu, ou de maladies chroniques. Maladies chroniques, ça peut être les maladies inflammatoires du tube digestif, le diabète, enfin, pas mal de maladies chroniques qu'on soigne actuellement.
Est-ce que cela impliquerait que certains cancers, et par exemple celui le colorectal, seraient peut-être plus présents dans certaines zones géographiques, par exemple, que d'autres? On peut imaginer que dans les Hautes-Alpes, il y a quand même un fort attrait pour le sport, l'activité physique. Est-ce que ça pourrait avoir un impact?
Ah oui, probablement. On voit que ça, dans certains pays, par exemple, en voie de développement, etc., où il n'y a peut-être pas les facteurs alimentaires que l'on a dans les pays occidentaux, on voit qu'il y a des maladies qui sont moins présentes. Sur le plan national, on n'a pas trop individualisé donc de régions où il y en a très peu ou de régions où il y en a de façon importante, quoi. Mais c'est vrai que c'est un socle commun, c'est-à-dire aliments transformés, malbouffe, obésité, tabac, alcool et manque d'activité sportive, maintenant a bien prouvé que ça favorisait la survenue de ce type de maladie.
Et on parlait donc là de zones géographiques, on peut aussi parler de hommes-femmes, de genre, de sexe. C'est un cancer qui touche de façon égale tout sexe aussi.
Oui, pareil. Le sexe ratio, ce qu'on appelle nous le sexe ratio, est identique. C'est-à-dire autant d'hommes que de femmes quasiment touchées par ce cancer. Chez la femme, c'est le deuxième cancer après le cancer du sein. Donc c'est quand même très fréquent. Et chez l'homme, c'est le troisième cancer après le cancer de la prostate et le cancer du poumon actuellement. Et le deuxième, comme vous l'avez dit en début d'émission, en mortalité.
Oui. C'est donc, belle transition, un cancer très mortel. S'il est détecté tôt, on peut le soigner dans 9 cas sur 10, on le disait. Pourquoi y a-t-il encore autant de personnes qui en décèdent? Pourquoi il n'est pas dépisté si plus tôt? Est-ce que vous le savez?
Alors, les gens déjà manquent d'informations sur le dépistage. Ils confondent pas mal les choses. Il manque d'informations. C'est aussi le fait de dire, je suis en bonne santé, donc pourquoi me faire dépister? Parce qu'en fait, on a tendance quand même culturellement dans notre pays à attendre les symptômes. On est quand même dans une organisation de la santé qui est basée sur le soin quand on est malade et non pas sur la prévention, comme dans d'autres pays, comme certains pays du Nord. Donc, on a axé finalement notre médecine sur pas mal sur le soin. Et donc ça, déjà, c'est culturel. Après, c'est vrai que dépister cancer du côlon, autant les femmes adhèrent facilement à la mammographie pour le dépistage du cancer du sein, pourtant c'est pas agréable de faire une mammographie, autant finalement le cancer du côlon, on parle de côlon, on parle de sel, et peut-être effectivement il y a quelque chose un petit peu de réfractaire à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est un test, on en parlera peut-être plus tard, mais extrêmement simple, et je peux vous expliquer comment il est basé sur quoi, quoi.
Voilà. Oui, on va y revenir plus dans le détail justement pour pouvoir.
Mais en fait, le but de ces campagnes, c'est de faire adhérer le maximum de gens pour justement leur montrer que, en fait, on peut diminuer fortement, comme vous l'avez dit, la mortalité du cancer colorectal et guérir dans 9 fois sur 10.
Après, vous parliez du cancer du sein. Il y a quand même une forte sensibilisation au cancer du sein. On en entend parler quand même depuis des années. Lorsqu'on va chez le médecin, chez la gynécologue ou le gynécologue, on nous en parle. C'est presque, on a l'impression, obligatoire. Alors que le cancer colorectal, on va pas chez son gastro-entérologue tous les ans.
Vous avez raison. Et puis en même temps, je pense c'est pour ça qu'il faut sensibiliser aussi tous les acteurs médicaux et paramédicaux. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le dites, on n'y échappe pas en gros à la mammographie, en tout cas une alerte. Même au niveau de la population générale, quand vous allez dans les boulangeries en octobre rose, vous avez tous les gâteaux qui sont en rose, etc. Il y a des affiches partout. Pour le cancer du côlon, c'est moins divulgué. Donc, alors c'est des campagnes qui sont quand même plus récentes. Cancer du sein, ça fait de très nombreuses années. Cancer du côlon, ça fait à peu près 15 ans, 15, 18 ans. Donc en fait, c'est plus récent, mais en tout cas, c'est pas rentré encore dans les mœurs comme le cancer du sein.
En même temps, on imagine, petite note d'humour quand même, que une image pour le cancer colorectal à la boulangerie, c'est quand même un peu moins sympa.
On pourrait faire des gâteaux en bleu ou en violet.
Oui, voilà, on peut choisir la couleur bleue en tout cas. Donc il y a, on le disait, pas de signe avant-coureur. Donc il faut faire le dépistage avant d'avoir le moindre signe, puisque sinon c'est potentiellement trop tard. Donc ce test, à quel moment on va le faire?
Alors déjà, tout d'abord, ce test est basé sur quoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour comprendre ce qu'est un cancer du côlon, au début c'est une petite tumeur, toute petite, bénigne, qui n'est pas cancéreuse, qu'on appelle un polype adénomateux, mais bon, peu importe le nom. Et cette petite tumeur qui est millimétrique va grossir au fil du temps en se reproduisant petit à petit. Donc c'est 2 mm, 1 cm, 1 cm et demi. Et donc ce process dure 10 ans. Sur ce temps-là, la tumeur est pas cancéreuse. Mais en grossissant, elle va saigner de temps en temps, mais ce sang ne va pas être vu par le patient, puisque c'est d'un saignement occulte en très faible quantité, et donc il est mélangé au sel, il n'est pas vu par le patient. Et le patient est totalement asymptomatique, puisque ce polype à 1 cm et demi ne donne aucun symptôme. Donc le but de ce test, c'est de dépister ce sang microscopique dans les selles, avec un petit écouvillon. Donc c'est pour ça qu'il est à faire tous les 2 ans, pour régulièrement faire ce test de dépistage, et pouvoir, entre guillemets, avoir le bon moment où le polype saigne et révélé par ce petit saignement occulte sera révélé par dans les selles.
Donc c'est important de le faire vraiment tous les 2 ans.
C'est tous les 2 ans, c'est indispensable. C'est-à-dire un test négatif ne doit pas dire finalement maintenant je suis tranquille pendant 3, 4, 5 ans. Entre 50, puisque c'est le pic de fréquence élevé, jusqu'à 74 ans, on fait ce test tous les 2 ans. C'est calqué à peu près sur la campagne de dépistage du cancer du sein. 50 à 74 ans aussi pour les femmes pour la mammographie.
Et où est-ce qu'on va chercher, va faire ce test?
Alors théoriquement, à partir de 50 ans, la CPAM, c'est la CPAM qui depuis à peu près maintenant 2 ans envoie les invitations. On reçoit une lettre qu'il faut remplir en quelque sorte. C'est un questionnaire et on peut avec ce questionnaire chez le médecin traitant pouvoir avoir le test. Maintenant, on a étendu justement l'accès du test aux pharmaciens. L'accès du test avec cette lettre et un code-barre sur Internet. Et il y a des études en cours, des expérimentations pour justement aussi avoir cette accessibilité par les infirmières libérales.
Donc, on reçoit une lettre chez nous parce qu'on a dépassé 50 ans. Et à ce moment-là, on peut se rendre soit chez son médecin, soit
sur Internet, soit chez le pharmacien, etc. pour justement avoir la délivrance du test.
Il faut avoir la lettre. Si on n'a pas la lettre...
En fait, l'intérêt d'avoir la lettre, c'est que cette lettre va vous dire est-ce que vous faites partie du risque entre guillemets moyen de la population générale, ou est-ce que vous avez des facteurs de risque particuliers qui théoriquement doivent vous faire passer directement par la case coloscopie. Imaginez, je reçois ma lettre, je veux faire le test de dépistage, mais en même temps je vais cocher la case mon père est décédé ou a été traité d'un cancer du côlon. Là théoriquement il faut passer directement par le gastro-entérologue pour faire directement une coloscopie, parce que vous serez considéré comme un patient à sur-risque. Voilà.
Et si on n'a pas de lettre, on peut quand même aller chez son pharmacien et demander un test?
Oui, actuellement, il y a une accessibilité même sur Internet.
Même sur facile. Internet, d'accord. Voilà. Donc, on peut faire la démarche.
Les gastro-entérologues en donnent, etc. Donc, le test, c'est vraiment très facilement accessible maintenant.
C'est gratuit, c'est remboursé?
Oui, parce qu'en fait, quand on fait partie de la campagne de dépistage organisée, c'est un test gratuit. Il y a une enveloppe pré-timbrée. Il se fait en 2 minutes. En fait, c'est un petit écouvillon, donc un petit stylet qu'on trempe dans une selle.
qu'on a récupéré,
on le met dans une enveloppe pré-timbrée et ça part dans un laboratoire centralisé en France, le laboratoire Cerba, qui dépiste ce sang et on reçoit la réponse en une semaine, 10 jours.
D'accord. On reçoit la réponse chez nous, enfin oui, par mail, j'imagine.
Tout à fait.
Et que fait-on des résultats? Comment on les lire?
Alors, la plupart du temps, ces résultats sont négatifs. Il faut savoir que le test est négatif la plupart du temps, dans 96% des cas. Donc, 4% des tests sont positifs. Et si le test est positif, alors vous allez avoir le rappel par le CRCDC, par les centres de dépistage qui ont aussi l'information, et par le médecin traitant, on va conseiller au patient d'aller faire une coloscopie parce qu'on aura dépisté d'infimes quantités de sang dans les selles. Et donc, ça peut évoquer un polype, cancéreux ou pas cancéreux, mais qui est en train de grossir dans le côlon et qu'il faudra éventuellement traiter. Donc, 4% des tests positifs, coloscopie. Mais la plupart du temps, la coloscopie, dans un cas sur deux, va être normale. On va retrouver une lésion totalement bénigne qui n'a rien à voir avec un polype, des ulcérations, des hémorroïdes, des diverticules. On va rassurer le patient. Et dans à peu près 8 à 9% des cas, on va retrouver une lésion, qu'elle soit bénigne ou maligne, mais en tout cas certainement à un stade très précoce, et elle va être traitée soit par la coloscopie dans le même temps, les polypes, on les résèque, même les gros polypes, ou par, dans les rares cas où il y aura un cancer débutant, par la chirurgie, mais qui sera une chirurgie simple, sans traitement lourd associé.
On va, je pense, avoir le temps de développer les traitements qui existent, les différents traitements. Mais ce sera juste après la pause musicale. On écoute tout de suite une musique que vous avez choisie, Benjamin Biolay, Ton héritage.
Soir de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille. je sens. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant.
Il est midi 40, vous écoutez Fréquence Mistral, le magazine du midi, et nous sommes aujourd'hui avec le docteur Jean-Guy Bertolino, gastro-entérologue à l'hôpital de Gap, pour parler prévention du cancer colorectal, puisque nous le rappelons, nous sommes dans le mois mars bleu. Alors nous avons présenté ce cancer, ses causes aussi, son dépistage, on pourra revenir encore sur certains aspects peut-être. On va désormais parler des comportements à adopter pour prévenir ce cancer, et puis comment on le soigne. Avant cela, on parlait à travers ce dépistage d'une volonté, d'un objectif avec le mois de mars bleu, de baisser la mortalité, puisque l'idée c'est que si ce cancer est dépisté assez tôt, dans 9 cas sur 10, on pourrait éviter le décès. Donc, comment vous voyez la possibilité de le baisser de baisser cette mortalité de façon plus large?
Alors déjà, ce que vous disiez, c'est déjà éduquer la population, ça c'est cible des jeunes, des adolescents et des adultes jeunes, d'adopter des comportements alimentaires, activités sportives, là on fait de la prévention primaire de tous les cancers. Donc si on arrive à inculquer, alors sans avoir devenir monastique, c'est-à-dire on peut faire toujours des petits écarts et faire la fête, ça c'est toujours permis, c'est ce qu'on dit aux différents patients, mais disons d'adopter déjà les bases d'une alimentation plus saine, avec des produits moins transformés et d'avoir une activité sportive régulière, au moins 3-4 fois par semaine, assez intense, mais au moins d'une demi-heure, quoi. Et donc on adopterait, probablement on ferait déjà baisser le risque d'incidence, c'est-à-dire d'apparition des cancers. Mais ça, c'est commun à tous les cancers. Après, pour ce qui s'agit du cancer du côlon, bah, en fait, il faudrait que ça rentre culturellement dans les mœurs, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans, bah, voilà, on commence à faire ces tests de dépistage, comme les femmes font la mammographie, bah, femmes et hommes entrent dans le cadre du dépistage organisé de ce cancer, et tous les 2 ans, bah, on reçoit notre petit écouvillon, notre petite enveloppe, et puis on le renvoie, on le trempe dans les selles et on le renvoie. Et en faisant ça, s'il y a une adhésion de la population ciblée à ce test-là, on sait qu'on peut diminuer drastiquement l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cancers, et la mortalité. Avec ce que vous venez de dire, tout simplement pourquoi? Parce que quand on va dépister des lésions qui ont saigné, mais qui sont totalement asymptomatiques, et qu'on ne voit pas de saignement à l'œil nu, ben, quand vous ferez votre coloscopie, vous découvrirez un polype, c'est-à-dire c'est une lésion précancéreuse, on pourra la traiter dans le même temps. C'est-à-dire la coloscopie permet aussi la résection de ces lésions. Et si par malchance on trouve un cancer, il sera la plupart du temps débutant. Et là, vous aurez un traitement qui sera peu agressif avec la plupart du temps toutes les chances de guérison.
Oui, donc forcément...
Donc en fait, en adoptant des règles et surtout le dépistage à partir de 50 ans, tous les 2 ans par ce test-là, bah, vous resterez en vie, vous n'aurez pas... En fait, moi je dis souvent comme slogan, faites le test et pas le cancer. Et n'ayons pas peur du cancer parce que vous découvrirez avec ce test, même dans les rares cas où il sera positif, souvent des lésions précancéreuses.
Donc plus facile à guérir. Alors, exactement. On va parler justement de comment on le soigne, mais faisons-le dans l'ordre, parlons prévention. Vous disiez l'alimentation, l'activité sportive, physique, régulière. Est-ce que on a des conseils plus précis, peut-être? On peut parler déjà de l'alimentation, de ce qu'il faut éviter. Vous parliez des produits transformés, par exemple. Il y a vraiment des études sur l'alimentation qui sont faites?
Oui. On sait aujourd'hui que la plupart du temps, les produits transformés qu'on peut acheter, alors c'est les aliments préparés, ce qu'on achète en supermarché, c'est les sandwichs formés, etc. En fait, c'est tous les aliments qui ne sont pas cuisinés à la maison, en quelque sorte. tous les aliments qui ne sont pas cuisinés, qu'on achète tout fait, qu'on fait réchauffer, qu'on mange, y compris certains biscuits pour les enfants, etc. Donc tous ces produits transformés, on sait que aujourd'hui, ça favorise l'apparition des maladies inflammatoires et des cancers plusieurs années après.
Qu'est-ce qu'une maladie inflammatoire, pardon?
Alors, les maladies inflammatoires, nous, ce qu'on appelle les maladies chroniques, les maladies inflammatoires, c'est diabète, hypertension artérielle, les cancers. Nous, en gastro-entérologie, c'est les maladies du tube digestif, c'est-à-dire les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques. Toutes ces maladies sont favorisées quand on a une alimentation avec des produits transformés. Ça, c'est sur le plan alimentaire, c'est les conseils que l'on peut donner. Voilà. Après, sur l'activité sportive, il faut avoir effectivement une réelle activité sportive régulière, c'est-à-dire alors sans faire du sport extrême, et avoir au moins 2 à 3 fois par semaine une activité sportive d'au moins 30 minutes, c'est-à-dire marche rapide ou alors faire du vélo ou faire un peu de rando. En fait, il faut adopter ces modes de vie.
Oui, on parle de sport, mais ça peut être aller au travail en marchant.
Voilà. En marchant un peu vite, etc. Il faut faire vraiment travailler son muscle. Aujourd'hui, on sait vraiment que le muscle va produire plusieurs petites, alors c'est difficile, mais plusieurs petites protéines, si vous voulez, anti-inflammatoires, qui vont pouvoir justement bloquer certaines cascades pour les cancers et pour les maladies chroniques.
D'accord, même celle du côlon.
Celle du sein, etc. Ça, c'est commun à tous les cancers. Ça, c'est sur la prévention pré-primaire.
Ça, c'est vraiment la prévention. Donc
et
là,
après,
ça concerne les jeunes.
Voilà, ça, les jeunes. Ah. Voilà.
Et
voilà,
plus les moins jeunes.
Pour espérer diminuer l'incidence des cancers, qu'il y ait moins de cancers, moins de maladies chroniques. Voilà, qu'on soit plus basé sur la prévention et non pas sur le soin. Et après, on continuera malgré ces règles-là. Je veux dire, à faire du dépistage. Là, on n'est plus dans la prévention, on est dans le dépistage. Donc, 50 ans, dépistage du cancer du sein, du cancer du côlon et du cancer du col, effectivement.
Et si on a un test donc positif au cancer, là, je parle bien au cancer, on peut avoir un test, comme vous disiez, positif, mais finalement, pas de cellules cancéreuses. Mmh. Voilà. Mmh. Si on est positif pour le cancer colorectal et qu'on le détecte assez tôt, comment on le soigne?
La plupart du temps, donc test positif, ça veut dire qu'on a dépisté un peu de sang dans les selles qu'on n'a pas vu à l'œil nu. C'est tout l'intérêt de ce test. Donc quand on va faire la coloscopie, on va trouver soit une lésion précancéreuse, qui n'est pas un cancer, c'est-à-dire c'est encore au stade de polype. C'est une lésion précancéreuse. La plupart du temps, ce polype sera traité dans le même temps que la coloscopie, c'est-à-dire qu'en fait, on a des instruments, des petits bistouris, des petites anses, etc., qui permettent de réséquer ces lésions-là. Donc, on les enlèvera. Et donc, on empêchera évidemment le polype de grossir et de donner plus tard un cancer. Soit on tombe déjà devant un cancer précoce, parce qu'il n'a donné encore aucun symptôme au patient. Et là, il sera soit résécable endoscopiquement aussi, parce que certains cancers superficiels sont résécables endoscopiquement, soit on passera par la case chirurgie, mais la plupart du temps, la chirurgie sera une chirurgie entre guillemets assez simple et sera pas quelque chose de plus lourd quand on est devant des grosses tumeurs avec des ganglions envahis, etc.
D'accord. Donc chirurgie, on enlève aussi la partie.
Alors la chirurgie enlève la partie du côlon où siège la petite tumeur, mais souvent ce sera une chirurgie simple, non pas complétée d'un traitement médical par chimiothérapie, etc., qui sont des traitements quand même beaucoup plus lourds et avec une mortalité maintenant après qui commence à s'élever.
Et donc, si on est plus avancé dans le cancer, c'est cela qui va arriver, ça va être de la chimiothérapie,
oui, souvent.
Plus chirurgie.
Oui, en fait, quand on enlève un cancer du côlon et qu'on analyse, les ganglions qui sont autour du côlon, la plupart du temps, si les ganglions ne sont pas envahis, c'est-à-dire que le cancer n'atteint que la paroi du côlon, la chirurgie suffira. Mais dès que les ganglions s'envahissent et ils sont envahis assez tôt, surtout quand le cancer a déjà donné des symptômes, là, il y aura de la chirurgie plus de la chimiothérapie. Et là, on n'est plus dans une mortalité faible. Là, c'est pour ça que les chiffres sont si mauvais. Ce que vous disiez tout à l'heure, 90% de survie, c'est pour les stades précoces. On tombe rapidement à 30-40% de survie à 5 ans dans les stades avancés.
Et à partir de quand on sait que c'est trop tard? Ce que vous disiez, à partir du moment où ça s'élargit.
Cancer est ce qu'on appelle un cancer invasif avec des ganglions, on va proposer aux patients un traitement, bien sûr. Traitement, chirurgie, plus ou moins chimiothérapie. Mais après, donc, on va surveiller le patient, et pour voir s'il ne développe pas après des métastases, etc. Là, on est dans une maladie chronique beaucoup plus grave, entre guillemets. Alors que si vous enlevez un cancer débutant ou un tout petit polype, il y aura même plus de surveillance à faire après.
D'où l'intérêt, comme d'où vous l'intérêt. Disiez, d'avoir ce dépistage.
Et après, malgré, si le c'est vrai qu'on voit que le dépistage est très simple, je vous l'ai dit, c'est un petit écouvillon qu'on trempe dans les selles, ça se fait en 2 minutes, l'enveloppe, on le met dans un petit tube, l'enveloppe est prétimbrée, on n'a même pas allé, enfin, je veux dire, après, il n'y a plus qu'à le poster. Et ben, malgré ce, on a une adhésion de la population qui est encore trop faible. Parce que si on voulait vraiment faire diminuer la mortalité et l'incidence du cancer, il faudrait qu'il y ait plus de 50%. L'idéal, ce serait 60% de la population ciblée qui fasse le test. Or, on en est, en France, à un peu plus de 35%. Donc, on est loin des 60%. Dans les Hautes-Alpes, on est finalement presque au-dessus de la moyenne nationale. On est à 40%, c'est déjà bien. C'est dû un petit peu à toutes les campagnes que l'on fait sur le terrain, mais on est encore loin des 60%. C'est pour ça, c'est le but de faire de l'information pour le grand public.
Après, il y a peut-être aussi une question de... Ça fait peur de se dire on va être diagnostiqué pour un cancer, même si, quand vous nous l'expliquez, ça paraît évidemment...
Oui, il y a la crainte, bien sûr.
Il y a la crainte. Oui. Et puis, il y a aussi peut-être la multiplication des préventions. Par exemple, en tant que femme, on va peut-être aller devoir se faire dépister pour le cancer du sein. Ensuite, le cancer colorectal, il va y en avoir combien au final?
Oui, alors c'est vrai qu'on rentre... Ça, c'est pas ce qu'on disait tout à l'heure au départ. C'est-à-dire c'est culturel. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, ce que la CPM nous aide à faire ça, hein, c'est à l'assurance maladie. C'est-à-dire que vous faites des bilans à 20 ans. Alors là, c'est des bilans plus simples, des bilans dentaires, etc. Vous faites les bilans à 30 ans. Est-ce que à 30 ans, vous faites dépistage du cancer du col chez la femme qui commence beaucoup plus tôt? En fait, vous faites dépistage à 50 ans. Ben, à 50 ans, est-ce que vous avez fait votre dépistage du cancer du côlon, votre dépistage du cancer du sein? Est-ce que vous êtes suivi? Alors, c'est vrai que c'est des examens un petit peu redondants, qu'on l'on répète, mais pour éviter des maladies potentiellement très graves. Plutôt que d'attendre les symptômes, d'être dans un système de soins avec des maladies qui sont lourdes et souvent avec une morbidité et une mortalité conséquente.
Donc ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, vous, dans cette volonté d'augmenter l'adhésion, surtout, et d'informer, comme vous dites, vous menez une campagne d'information sur le territoire, déjà dans les Hautes-Alpes, mais il y en a partout dans la région, surtout en ce mois de mars bleu, et notamment à Gap, le 12 mars, à 18h, vous faites partie de l'organisation d'une conférence de prévention du cancer colorectal avec plusieurs médecins qui vont en parler. Ça se passe dans l'amphithéâtre du pôle universitaire rue Bayard, en collaboration avec l'hôpital. Quel sera le programme?
Alors en fait, le but de ces, ce qu'on appelait, alors au début on les appelait conférences, moi j'ai préféré appeler ça des réunions pour que le grand public ait moins peur, parce que conférence c'est un petit peu, voilà, c'est ça fait toujours un petit peu peur, pour échanger avec le public et pour justement favoriser l'information sur ce dépistage, la coloscopie, qu'est-ce qu'on trouve et comment on traite des cancers à un stade précoce. Alors il y aura effectivement des médecins, mais des médecins généralistes, il y aura des pharmaciens, pour qu'ils expliquent comment finalement ils donnent le test. Il y aura des infirmiers et des infirmières. Il y aura aussi une diététicienne qui pourra parler un petit peu de elle, ce qu'elle entend comme bonne règle diététique. Il y aura un coach sportif, un animateur sportif, donc qui pourra nous parler de l'activité sportive. Et surtout, on va faire venir aussi des patients, témoins, et qui ont subi ce dépistage, comment ils l'ont vécu, et quand on leur a trouvé des lésions précancéreuses, finalement, ils sont très contents de l'avoir fait. Et donc, pour justement pouvoir promulguer un petit peu ce type de prévention.
Et il y aura un temps questions-réponses?
Tout à fait, il y aura après des échanges avec des tables rondes, et voilà, des échanges avec la salle. Donc, on le fait tous les ans, et puis je pense que c'est important pour le public.
Vous avez du monde en général? Ça fait combien d'années que vous...
Alors, ça c'est la quatrième année. On a du monde en général. Jusqu'à présent, on ciblait quand même pas mal un peu trop les professionnels de santé. Alors, c'est très bien qu'ils soient avec nous, mais pas assez le public. Donc, le but, c'est qu'il y ait beaucoup de gens, des gars pensés qui viennent, sans rien avoir avec le domaine médical, et qui viennent nous poser leurs questions et en tout cas avoir de l'information.
Oui, pour que ça puisse circuler.
C'est ça.
Où peut-on trouver les informations sur cet événement?
Alors, les informations, théoriquement, on les a diffusées dans la presse, dans les milieux associatifs, Ligue contre le cancer, le CRDC, on les a diffusées auprès des CPTS, auprès des pharmaciens, des infirmières. Donc, on essaie de diffuser l'information de façon un petit peu générale. Après, on ne sait jamais très bien comment est touchée la population.
Et sur Internet, on trouve aussi rendez-vous,
sur le site.
On le rappelle, c'est le 12 mars à 18h au pôle universitaire universitaire, donc rue Bayard, à Gap. Donc, vous y serez, vous ?
Ah bah oui, puisqu'on l'organise.
Vous pourriez l'organiser, envoyer d'autres personnes.
Ouais, mais bon. J'y participe amplement, oui.
D'accord. Il y a d'autres dates dans la région, puisque pour les auditeurs et auditrices qui sont ailleurs, je vais les rappeler rapidement. À Marseille, c'est aujourd'hui à 17h30 dans l'amphithéâtre Gasto d'Aix-Marseille Université, au Jardin du Pharo, donc 58 boulevard Charles Livon. À Toulon, ce sera le jeudi 13 mars à 17h30, donc salle Franck Arnal, rue Vincent Scotto. À Avignon, le mardi 18 mars à 18h, à la Chambre de commerce d'Avignon, allée des Fenaisons. Et à Nice, le 27 mars, jeudi, à 17h30, salle de spectacle de Stockfish, 5 avenue François Mitterrand. L'entrée est gratuite partout, à Gap aussi.
Bien sûr.
Pas de réservation.
Pas de réservation. On vient et puis on discute avec les professionnels.
Voilà. Et c'est tout pour les conférences sur ce cancer-là. Donc, le cancer colorectal. Merci Jean-Guy Bertolino.
Merci à vous de votre invitation et de votre participation à cette campagne.
Je le rappelle, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital de Gap, aussi chargé donc de la sensibilisation sur les cancers. Et c'est la fin du magazine aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h10 avec Nathalie à l'antenne de Manosque dans le magazine À la bonne heure. Merci à toutes et tous pour votre écoute et bon après-midi.
Maman a trop travaillé, maman devrait prendre sa retraite. Maman elle est fatiguée, maman aime trop ses cigarettes. Maman donne beaucoup aux autres, elle oublie sa santé à elle. Maman devrait faire une pause. Maman aime quand je la console, maman aime quand je suis là. Maman aime quand je suis heureux, elle m'aime quand je le suis pas. Maman aime faire des balades, quand le soleil perd ses nuages. Maman aime parler aux arbres. Maman me raconte sa journée, parfois j'écoute même pas. Maman m'attend pour déjeuner, elle me resserre trois fois. Maman aime me faire à manger, elle aime me traiter comme un roi. Elle a du mal à me partager, ma maman. Elle était si belle avant, quand je vois les photos ça me rend triste. Elle l'est toujours autant, maman des autres elle s'en fiche. Elle est seule maman, elle est trop sensible. Y'a aucune chose qu'elle ferait pas pour son fils, ma maman. Maman s'occupe de sa maman, maman sera bientôt épuisée. J'aimerais pouvoir monter dans le temps pour elle me laisser respirer. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Est-ce que c'est ma faute à moi? Est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi. Est-ce que c'est ma faute à moi? Si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa. Dites-moi. Est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi. Est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi. C'est pas de ma faute à moi si papa n'aime plus maman et que maman n'aime plus papa. Papa a trop travaillé, papa s'est oublié souvent. Papa il est fatigué, il voudrait rattraper le temps. Papa pense beaucoup aux autres, il passe son temps à les soigner. Il pense toujours que c'est de sa faute, papa a du mal à s'aimer. Papa aime quand on discute, tous les deux dans la cuisine. Des monologues de 10 minutes, à parler de livres ou de musique. Papa a les valeurs d'avant, il croit au travail. Papa aimait beaucoup maman. Papa aime faire des balades sous les forêts de châtaigniers. Papa aime garder le silence comme si rien ne l'atteignait. Papa aime donner des conseils sur comment faire des chansons. Je lui dis de les écrire lui-même, de faire une carrière dans le son. Papa aime dire que c'est de sa faute tous les malheurs du monde. Papa a peur de vieillir, papa il a peur du gond. Papa voudrait qu'on se rapproche, il veut resserrer les liens. Papa a eu un sale gosse, il a voulu tout faire bien. Papa m'a dit qu'il était fier. Papa il est trop gentil. Et moi je voudrais dire à mon père que c'est mon meilleur ami. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Et papa n'aime plus maman. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi. Est-ce que c'est ma faute à moi? Est-ce que c'est ma faute à moi?